Voilà, nous allons commencer, foule innombrable que nous sommes. Si vous voulez bien, nous nous levons pour une prière. Elle sera un peu longue, parce que nous allons commencer d'envisager le sacrement de l'Eucharistie. Et c'est l'occasion rêvée, me semble-t-il, de réciter le Laudation. Alors je vais le faire en français, hein, on sera sûr. Voilà, cette très belle séquence que l'on doit au génie de saint Thomas d'Aquin et qui vante justement les mérites et la beauté de l'Eucharistie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur par des hymnes et des chants. Tant que tu peux, tu dois oser, car il dépasse tes louanges, tu ne peux trop le louer. Le pain vivant, le pain de vie, il est aujourd'hui proposé comme objet de tes louanges. Au repas sacré de la scène, il est bien vrai qu'il fut donné au groupe des 12 frères. Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos cœurs. C'est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution. À ce banquet du nouveau roi, la Pâque de la loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. L'ordre ancien le cède au nouveau, la réalité chasse l'ombre, et la nuit et la lumière la nuit. Ce que fit le Christ à la scène, il ordonna qu'en sa mémoire nous le fassions après lui. Instruits par son précepte saint, nous consacrons le pain, le vin, en victime de salut. C'est un dogme pour les chrétiens, que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang. Ce qu'on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l'affirmer, hors des lois de la nature. L'une et l'autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voilent un réel divin. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser. Il est reçu tout entier. Qu'un seul ou mille communient, il se donne à l'un comme aux autres. Il nourrit sans disparaître. Bons ou mauvais le consomment, mais pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort. Mort des pécheurs, vie pour les justes. Vois, ils prennent pareillement. Quel résultat différent. Si l'on divise les espèces, n'hésite pas, mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment, aussi bien que dans le tout. Le signe seul est partagé, le Christ n'étant rien divisé, ni sa taille, ni son état ne sont en rien diminués. Le voici le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est un peu long, mais c'est beau. Vous l'avez remarqué, toute la doctrine catholique de l'Eucharistie se trouve ramassée dans ces quelques lignes du docteur angélique. Alors, la dernière fois, en ne finissant pas, au sujet du sacrement de confirmation, je vous annonçais qu'aujourd'hui, j'allais traiter Pardon, il faut juste que je règle quelque chose pour ne pas être ennuyé. Je vous annonçais donc la dernière fois que je terminerai l'enseignement au propos de la confirmation en évoquant les deux pratiques respectives à l'Orient et à la latinité chrétienne, avec une priorité qui est donnée à la cohérence des trois sacrements d'initiation. Vous avez dit qu'en Orient, il était de coutume de donner, dès le baptême et même pour les nourrissons, les trois sacrements d'initiation afin que soit bien manifestée la cohérence de ces trois sacrements, qu'on ne peut pas, après avoir été baptisé, faire l'économie de la confirmation ni de l'Eucharistie, et que, parce que l'évêque ne pouvait pas être partout, lui qui est normalement le ministre ordinaire de la confirmation, eh bien, on déléguait aux prêtres orientaux la capacité de donner habituellement ce sacrement de confirmation. Vous avez dit qu'il en allait autrement dans la sphère latine, et que nous nous tenions à mieux mettre en exergue le lien à l'évêque, et que donc, eh bien, on attendait que l'évêque veuille bien se manifester dans toute sa gloire épiscopale, et surtout que la personne puisse recevoir, à l'âge de raison, une instruction suffisante pour recevoir la confirmation qui fait du sujet un apôtre, un militant du Christ. En réalité, je vais laisser cela de côté, si vous permettez, je vais l'ajouter par un enregistrement vocal à l'enregistrement qui est déjà en ligne de la dernière séance, et je vous donnerai d'un coup le topo écrit entier, voilà, ainsi d'ailleurs que l'enseignement précédent. Je vais donc, sans attendre, passer directement au sacrement de l'Eucharistie, en vous prévenant d'emblée que j'ai été tout à fait surpris hier soir en voulant retrouver un cours que j'avais donné à ce sujet, de n'en rien retrouver. Voilà, ça m'a fait un peu drôle, ça m'a picoté. C'était il y a déjà quelques années, 10 ans je crois. Par conséquent, voilà, j'ai dû passer une bonne partie de la journée, on va dire, pour essayer de remettre les idées au clair. Bref, voilà, c'est comme ça. J'espère que le Saint-Esprit va souffler fort, et qu'il ne va pas attendre la Pentecôte pour ce faire. Voilà. Sine Dominico non possumus vivere. Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre. Je pense que vous connaissez comme moi ce cri du cœur de nos devanciers dans la foi. En réalité, il fut ce cri pour la première fois poussé en 304, lorsque une cinquantaine de chrétiens s'étaient réunis chez un particulier afin de participer à la messe qui était célébrée par l'un d'entre eux, et que la police de l'empereur, qui avait été habilement, auprès de laquelle on avait habilement dénoncé ces gens-là, est entré dans cette maison, a arrêté puis déporté ces gens qui se trouvaient à Abitel en Turquie, qui ont été déportés à Carthage et qui sont morts glorieusement martyrs. Sine Domenico, sans le dimanche, c'est-à-dire en réalité sans ce que nous célébrons le dimanche, l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. Ces martyrs attestaient par ces mots de l'importance vitale que ce sacrement a toujours eu dans les rangs du christianisme. J'ai déjà souligné à de nombreuses reprises dans les dernières séances, depuis le début de l'année consacrée au sacrement, la place éminente, la place très particulière du sacrement de l'Eucharistie parmi les autres. Je rappelle ici deux motifs pour mémoire que j'ai déjà évoqués. Le premier motif de la supériorité de l'Eucharistie, c'est que tous les autres sacrements sont ordonnés à l'Eucharistie comme à leur fin, comme à leur but. On est baptisé, on est confirmé, et même on est marié, ordonné, qu'en vue de pouvoir communier au corps et au sang du Seigneur dans l'Eucharistie. Le deuxième motif que j'évoquais tient à ce que, à la différence des autres sacrements qui ne véhiculent que la grâce du Christ, c'est déjà beaucoup, ne véhiculer que, c'est une expression un peu impropre, parce que quand on sait que la grâce c'est la vie de Dieu, bon. Mais le sacrement de l'Eucharistie est le seul sacrement dans lequel il n'y a pas seulement la grâce, mais bien l'auteur de la grâce, c'est-à-dire le corps, le sang, l'âme et la divinité du Fils de Dieu venu dans la chair. Et le sacrement de l'Eucharistie, par conséquent, assure, au fil des âges et jusqu'à la fin de l'histoire, il assure la présence du Christ mieux encore que tous les autres canaux, parce que, vous le savez, le Christ se rend présent à l'humanité de diverses manières, mais la façon dont il est présent dans l'Eucharistie fait de cette présence, justement, qu'elle est inégalée. J'y insiste parce que, je ne sais pas pourquoi, depuis quelques décennies, la rumeur sourd dans les rangs des facultés de théologie que l'Eucharistie, c'est une des présences parmi d'autres, il faut se détendre, il faut arrêter d'exalter au risque de tomber dans une sorte d'idolâtrie les saintes espèces. Alors, je ne sais pas d'où sort cette espèce de rumeur, mais il va falloir qu'elle se taise, parce que moi, quand j'ouvre le catéchisme de l'Église catholique, qui récapitule, comme vous le savez, toute la tradition de l'Église, voilà ce que j'y lis. Le mode de présence du Christ sous les espèces eucharistiques est unique. On l'appelle réel, non pas à titre exclusif, comme si les autres modes de présence n'étaient pas réels, mais par excellence, parce qu'elle est substantielle, et que par cette présence, le Christ, Dieu et homme, se rend présent tout entier. Ce qui n'est pas le cas dans les autres modes de présence. Le même catéchisme, là on est au numéro 1374, et je cite maintenant 1373, voilà ce qu'il nous dit. « Le Christ Jésus est présent de multiples manières à son Église, dans sa parole, dans la prière de son Église, là où deux ou trois sont réunis en son nom, c'est Jésus lui-même qui l'affirme en Matthieu 18, dans les pauvres, dans les malades, dans les prisonniers. » Je vous renvoie à ce discours à propos des fins dernières, du jugement dernier de Matthieu chapitre 25, redoutable et très beau chapitre. Hein, ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, à moi aussi vous l'aurez fait. Ce que vous n'aurez pas fait au plus petit d'entre les miens, à moi non plus vous l'aurez pas fait. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité, j'étais malade, etc. Donc il y a bien une présence à ces divers égards, dans sa parole, dans la prière, dans les pauvres, dans les prisonniers, dans les malades. Mais, poursuit le catéchisme, au plus haut point, il est présent sous les espèces eucharistiques. C'est un lieu, à nul autre pareil, dans lequel on peut s'approcher du Seigneur Jésus. Par ailleurs, donc ça c'était les deux motifs, hein, tous les autres de la suréminence de l'Eucharistie, tous les autres sacrements sont ordonnés à l'Eucharistie comme à leur fin, et dans le sacrement de l'Eucharistie, on a une présence inégalable qui n'est pas assurée même dans les autres sacrements. J'ajoute à cela, en reprenant une expression des pères de l'Église, que l'Eucharistie fait l'Église. Autrement dit, et ça j'y reviendrai, l'Église tire son existence de l'Eucharistie. Bien sûr, ultimement de la Trinité Sainte, mais médiatiquement par l'Eucharistie. Et d'autre part, l'Église tire son unité du sacrement de l'Eucharistie, et pas d'ailleurs. Et puis, le catéchisme de l'Église catholique, toujours lui, prend soin de rappeler dès le début de la longue partie qu'il consacre à l'Eucharistie, ceci, je cite, « L'Eucharistie est le résumé et la somme de notre foi. » L'Eucharistie est le résumé et la somme de notre foi. Et le catéchisme de poursuivre, « Notre manière de penser s'accorde à l'Eucharistie, et l'Eucharistie, en retour, confirme notre manière de penser. » Ça, c'est une citation par le catéchisme de saint Irénée de Lyon, dans son ouvrage « Contre les hérésies ». Voilà. Vous voyez qu'il y a, une vertu éminente qui est reconnue à l'Eucharistie, celle d'être un guide très sûr en matière de foi. Et une manière de savoir où l'on en est de sa foi, par conséquent, est de consulter l'estime que nous portons à l'Eucharistie, la foi que nous avons dans ce qui se passe au moment de la célébration de la messe, ou dans l'adoration eucharistique qui peut suivre. Vous voyez ? Alors qu'il en soit ainsi, qu'il y ait un lien étroit entre le sacrement de l'Eucharistie et l'intégrité de la foi, implique que si on comprend de travers ce qui se passe dans l'Eucharistie, voire si l'on nie ce que l'Église en affirme, eh bien on attente à l'intégrité de la foi, à l'intégralité de ce qui doit être cru, de ce que le Seigneur nous enseigne, en fait. Et c'est pour ce motif que le cardinal Charles Journet, auquel j'ai fait souvent référence, hein, ce théologien suisse de Fribourg, qui est mort en odeur de sainteté, bon, lui, c'est sûr, pour le coup, enfin bref, étant donné qu'on ait des déclarations de ces quatre, comme il y en a parfois pour certains, dont on a dit que c'est sûr qu'ils étaient morts sentant l'odeur de rose, bon, lui, c'est avéré, le cardinal Journet mettait en garde contre le relativisme de la foi eucharistique. Notamment dans ses dernières conférences, dans les années 70, je crois qu'il est mort en 75, dans une des dernières retraites, sinon la dernière qu'il a prêchée en 74, voici ce qu'il dit. Si vous ne croyez pas au miracle de la transsubstantiation, j'y reviens hein, sur ce terme crucial, vous êtes sur le point et sur la voie qui vous mènera à nier le miracle tout aussi grand du Verbe fait chair, c'est-à-dire de l'incarnation. Vous voyez, avoir un problème Avoir des questions, c'est tout à fait loisible. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut, à cadaver, obéir à ce qu'on nous enseigne et avoir la foi du charbonnier et surtout pas essayer de fouiller ces saints mystères parce que c'est indigne de Dieu, etc. Non. On peut avoir des doutes, on peut avoir des difficultés à comprendre, et comment non? Ce sont des mystères. Je rappelle que l'expression « les saints mystères » convient plus encore à l'Eucharistie qu'aux autres sacrements. Donc, il est normal de faire de la brasse coulée régulièrement, mais ce qu'il ne faudrait pas, ce serait se braquer, vous voyez, contre l'enseignement de l'Église, triant, ce qu'on appelle hérésiste le tri, et voilà, retenant ça, mais par contre repoussant ça, parce que ça ne me plaît pas trop, etc. Parce que le danger, nous dit Journet, c'est qu'on en vienne tôt ou tard à remettre en cause carrément cet autre mystère qu'est l'incarnation. Si on n'accepte pas que Jésus puisse descendre dans les espèces de l'Eucharistie, eh bien, petit à petit, on en viendra à nier que le Fils de Dieu puisse être venu précédemment dans la chair. Alors, Journet n'est pas du genre du tout à condamner, hein, donc c'est pour ça qu'il faut le prendre avec sérieux, sinon c'est un saint contemplatif très bon, très... Voilà. Mais des siècles avant lui, du reste, un père de l'Église éminent, le père dans un double sens, voilà, commun, des premiers grands théologiens de l'Église, mais père de Saint-Augustin, celui qui a enfanté Saint-Augustin vraiment à la fois, Saint-Ambroise, donc, vous l'avez deviné, écrivait à l'encontre de ceux qui niaient la possibilité de ce qu'on appellerait plus tard, il n'utilise pas le terme, il n'était pas encore forgé, la transsubstantiation, voilà ce que dit Saint-Ambroise dans son ouvrage « Des sacrements ». Il dit « La parole du Christ, qui a pu créer de rien ce qui n'existait pas, ne peut-elle pas changer les choses qui existent en ce qu'elles n'étaient pas ?» Il parle déjà de la transsubstantiation, sans employer le terme. Il est moins difficile de changer des choses en d'autres choses que de leur donner une existence à partir de rien. Vous saisissez l'enjeu du raisonnement ? Par conséquent, donc, celui qui nierait la possibilité pour le Christ de changer la substance du pain et du vin en son corps et en son sang, il pourrait remettre en cause petit à petit la capacité même du Verbe de créer à partir de rien. Vous voyez, en vertu du principe qu'il peut le plus, peut le moins. Si on nie qu'il ne peut pas le moins, alors a fortiori, il ne peut pas le plus. On a donc vraiment un enjeu très profond procédant de l'approche qu'on a de l'Eucharistie. J'y insiste peut-être trop, vous aimeriez peut-être que j'entre d'emblée dans le plein pied dans cette merveille qu'est l'Eucharistie, mais je pense que c'est bon de considérer ça. S'il y a une crise de la foi si profonde aujourd'hui dans les rangs même de l'Église, ça tient notamment à ce qu'on a une crise très profonde quant à l'Eucharistie, quant à la messe. Le dire d'un mot. Voilà. De ces deux remarques, donc de celle de Journet et de celle de Saint-Ambroise surtout, on comprend que, encore une fois, que la défaillance en matière de foi eucharistique conduit subtilement à une défaillance au plan de la conception qu'on se fait du Verbe et même de Dieu, quoi. Et de sa puissance et de sa providence, etc. Et à cet égard, on ne peut être que préoccupé des derniers sondages qui tombent avec un relais médiatique complaisant, on va dire, quant à la foi des chrétiens. Je n'en cite qu'un, qui date de l'été 2019, qui a été publié par un institut de sondage nord-américain prestigieux, pardonnez-moi pour l'accent, voilà, le Pew Research Center. Je ne sais pas de faire de... Mon anglo-américain, ça ne marche pas. Qui révèle que, tenez-vous bien, 69% des catholiques nord-américains ne croyaient pas en la présence réelle du Christ dans les espèces eucharistiques, mais qu'ils n'y voyaient, ce sont leurs propres mots, que de simples symboles. 69% des baptisés catholiques américains. Bon, évidemment, si on va regarder les parmi eux ceux qui pratiquent régulièrement, on en vient à des pourcentages moindres, évidemment. Mais... Alors certains commentateurs de ce sondage qui a fait grand bruit, je ne sais pas si vous en avez eu vent à l'époque, mais on parlait de dérive protestante. Alors, je pense que c'est partiellement faux, ou partiellement vrai, selon, on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, parce qu'en réalité, et contrairement à ce qu'on croit souvent, la foi protestante est très fluctuante en fonction des églises, des communautés ecclésiales auxquelles on a affaire. Par exemple, les membres de la High Church anglicane croient en la présence réelle. Ils sont une minorité, les anglo-catholiques, qui sont disons, les plus proches de l'Église catholique, hormis les orthodoxes. Donc ils croient en la présence réelle et ils croient que cette présence réelle est durable. Les luthériens, pour leur part, croient, j'y avais déjà fait allusion, que la présence réelle est bien là, sauf que, qu'elle viendrait, cette présence réelle, elle est moins complète que dans ce que nous croyons par le, et qu'on dénomme par le terme transsubstantiation. Voilà, c'est une nuance de taille, mais voilà. Donc ils pensent que, oui, Jésus est bien présent dans le pain et le vin consacrés, mais uniquement pour la durée de l'office de la Sainte Cène. Après quoi, fermer le banc. Jésus est prié de bien vouloir retourner au ciel. Les calvinistes et la majorité des anglicans, eux, souscrivent, alors pas du tout à la présence réelle, mais à une certaine présence spirituelle. Bon, je ne sais pas trop ce que ça signifie dans le détail, mais c'est une force qui émane du corps glorifié de Jésus, mais le corps glorifié de Jésus, il est au ciel. Hein. C'est pas question de considérer qu'il y a un corps sacramentel comme nous on le croit. Mais au moment où on se réunit pour célébrer la Sainte Cène, si l'on est prédestiné par Dieu, ça c'est du calvinisme brut, si on est des élus, on va savoir qui il est ou qui n'est pas, bon, ça c'est, eh bien, alors on jouit de cette force qui est donnée, qui est communiquée par le corps de Jésus dans la gloire du ciel. Voilà. Notre âme étant ouverte par la venue au temple et par les lectures qui y sont faites et par la commémoration qu'on fait de la Sainte Cène, alors Dieu va donner à ceux qu'il a prédestinés, le Christ va donner une force spirituelle. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la présence réelle ni dans l'adoration eucharistique. Voilà. Quant au reste des communautés issues de la Réforme, c'est-à-dire la majorité, parce que maintenant il n'y a plus grand monde dans les rangs des églises historiques luthériennes, calvinistes ou anglicanes, elles ont fait des petits qui chacun un peu se sont aménagés, c'est un peu excessif ce que je dis, mais une fois sur mesure, bon. Le principe même de la Réforme, c'est le libre examen qui a été édicté par Luther. Donc c'est assez normal qu'au gré des décennies et à fortiori des siècles, chacun fasse un peu à sa mesure. Donc l'immense majorité des communautés issues de la Réforme nie purement et simplement toute présence du Christ dans les saintes espèces, même sous forme de force qui est donnée au moment de la Sainte Cène. Voilà. Elle ne voit dans l'Eucharistie qu'un simple mémorial, alors qui est une sorte de pièce de théâtre, quoi, représentant ce que Jésus fit le jeudi saint. Évidemment, qu'il ne célèbre pas pour autant par-dessus la jambe, ou eu égard à ce qui est raconté par cette pièce de théâtre, si je puis dire, on se tient. Mais voilà, on vénère ce qui s'est passé le jeudi saint. Mais aucun lien de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, le jeudi saint, à aujourd'hui. C'est, voilà. Vous voyez qu'on est dans une situation, eu égard à ce que je vous ai dit, des catholiques eux-mêmes, qui est un peu embarrassante même. Enfin, puisque l'Eucharistie occupe une place centrale, la place que je vous ai indiquée préalablement. Alors il faut que nous rassérénions, s'il en était besoin, notre foi en l'Eucharistie, mais enfin c'est une question rhétorique, enfin c'est une formule rhétorique, parce que nous avons tous besoin d'être rassérénés, et en premier lieu celui qui vous parle, et qui a pourtant la grâce de célébrer une fois et souvent plusieurs fois le jour, la messe. Voilà, il faut bien que je saisisse enfin ce qui se passe entre mes mains et par ma bouche. Voilà, bon. Donc vous allez pouvoir prier pour ça, et moi je vais prier pour que vous autres ayez la même, même ravivement, c'est pas très français, quant à la foi eucharistique. Alors, et pour cela, il faut qu'on retourne évidemment, comme pour chacun des sacrements, aux sources. Et ces sources, Eh bien, c'est la révélation et d'abord et avant tout l'Écriture sainte. Après quoi, on ira faire un tour du côté de la grande tradition de l'Église. Voilà ça. Donc aujourd'hui, ce soir, j'examine la présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin. Voilà. La prochaine fois, nous verrons la dimension sacrificielle de la messe, qui elle aussi est battue en brèche, parce que voilà, le terme même de sacrifice heurte les oreilles, voilà, parce qu'il peut bien se comprendre quand même, c'est assez violent ce qui s'est passé sur le Golgotha. Voilà. Ce soir, donc, présence réelle, prochaine fois, sacrifice. Alors, quelles sont ces données de l'Écriture sainte? Ça tombe sous le sens. Évidemment, ce sont d'abord et avant tout les récits d'institution, comme on dit, qui figurent dans les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et dans la première épître de saint Paul aux Corinthiens. Quand on les met en vis-à-vis, la trame est quasiment la même, à quelques détails qui ont leur importance, mais bon, je ne vais pas entrer dans ces détails-là, parce que là, je suis sûr de vous perdre, parce que je me serais préalablement perdu. Voilà. Alors, comme vous le savez, je le remarque régulièrement, mais je pense qu'on n'a jamais fini d'en prendre la mesure, étonnamment, ce récit d'institution ne figure pas chez celui qui, pourtant, le soir dit, a mis sa tête sur le cœur de Jésus, c'est-à-dire qu'il était assis juste à côté du maître. Et il a pris les rayons plus que tous les autres. Et pourtant, il ne nous en dit rien. Il n'y a pas même les paroles « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Alors, une explication a été tentée par les théologiens, enfin, parmi d'autres. Jean a écrit son évangile tardivement par rapport aux autres. Autrement dit, les évangiles des trois autres étaient déjà largement répandus et en usage dans les églises primitives. Peut-être donc a-t-il estimé qu'il n'était pas opportun de réitérer encore ce récit. Bon, ça me paraît... ça prête à caution. Je ne sais pas, on lui demandera si un jour on se retrouve en sa présence. Ça se trouve, il est en train de hocher la tête. Enfin, si dans la gloire du ciel, on hoche de la tête, je ne sais pas. Ce qui est plus pertinent, me semble-t-il, c'est de constater de dire, en lisant cet évangile attentivement, qu'il a décidé de mettre le focus sur autre chose que la célébration de la première messe, mais plutôt sur l'événement qui est immédiatement conséquent, qui est le lavement des pieds. Lavement des pieds qui n'apparaît pas, pour le coup, dans les autres évangiles, mais qui est abondamment relaté par saint Jean. Voilà, avec cette mise au premier plan de la charité qui doit émaner directement de la communion eucharistique. Ce qui est très bien vu. De la part de l'aigle. Enfin, quoi qu'il en soit, on trouve chez saint Jean tout de même une doctrine eucharistique profonde, très nourrissante, en un autre endroit que le soir de la scène, vous le savez, c'est au chapitre, enfin vous ne connaissez peut-être pas le chiffre du chapitre, c'est le chapitre 6e, mais vous voyez où je veux en venir, c'est le discours du pain de vie. Là, dans le discours du pain de vie, que Jésus a prononcé dans la synagogue de Capharnaüm, après la première multiplication des pains, car il y en eut deux, en tout cas, tel que les évangiles les relatent, après cette multiplication à partir des 5 pains et des 2 poissons pour plus de 5000 hommes, donc imaginez un peu cette foule immense, voilà que Jésus se lance dans un long enseignement qui rejoint ce qu'il dira de manière plus lapidaire, plus succincte, le soir de la scène. C'est donc sur l'ensemble de ces textes, les récits d'institution, des trois synoptiques et de la première aux Corinthiens, et aussi du chapitre 6e de saint Jean, que l'Église a fondé sa théologie de l'Eucharistie. Or, l'impression très nette qui s'en dégage, et du pain de vie et des récits d'institution, c'est que ce à quoi procède Jésus n'a rien d'un pur symbole, comme la plupart des communautés protestantes le croient, et comme apparemment, selon les enquêtes récentes, beaucoup de catholiques eux-mêmes semblent le penser. Rien de symbolique. dans les récits d'institution, il ne dit pas du tout « ceci est le symbole » ou « ceci est le signe de mon corps, de mon sang ». Il dit bien « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Il n'y a pas d'ambiguïté. Enfin, les termes me paraissent extrêmement nets. Et on peut prendre dans la langue qu'on veut, le grec, le latin, l'hébreu, tout ce qu'on veut. C'est toujours la même univocité qui prévaut. Les théologiens évoquent à ce sujet ce qu'ils appellent le réalisme eucharistique. Réalisme, pour bien marquer que ce qui se passe alors, au moment de l'institution de l'Eucharistie, n'est pas de l'ordre de la simple parabole, comme Jésus aime en user dans bien des endroits de l'Évangile, que ça n'est pas qu'une manière de parler. C'est bien réel. Voilà. La chose reste la chose. Jésus produit ce qu'il dit. À l'appui de cette conviction réaliste, doit être relu le discours du Parnassien que j'évoquais à l'instant. C'est absolument frappant. Ça vaut vraiment le détour, je vous permets donc du coup d'y revenir quelques instants. La foule est éminemment réceptive, alors là elle est prête à tout, parce qu'elle a eu du pain, pas des jeux, mais du pain en tout cas. Elle s'en est bien rassasiée, elle est tellement heureuse que, comme nous le dit saint Jean, sans ambages, la foule s'apprête à s'emparer de Jésus pour en faire son roi, et que Jésus est obligé de s'enfuir. Voilà. Le vent, vous voyez, souffle dans un sens comme dans l'autre, c'est la même foule sans doute qui va hurler « crucifie-le » quelques temps plus tard, mais bon, on est de la même patte, hein, donc ça va bien. Et alors Jésus commence sa prédication devant une foule qui lui est totalement acquise, du coup, parce qu'ils ont fini par retrouver sa trace, sont allés de l'autre côté du lac de Tibériade, à Capharnaüm, et pif paf pouf, dans la synagogue, tout le monde s'engouffre, et on attend que Jésus continue les merveilles qu'il a commencé d'accomplir en multipliant le pain et en enseignant à une autorité, avec une autorité à nulle autre pareille. Et puis, bon, là, Jésus commence avec quelque chose qui, si j'avais le mauvais goût de faire de mauvais mots, mais ça n'est pas mon cas, je dirais ne mange pas de pain, bon, puis il dit, enfin, ça mange un peu de pain, mais. Enfin, bon, je vais avoir des petits problèmes, un de ces quatre, mais... il affirme donc qu'il existe un pain qui est encore meilleur que celui qu'ils ont mangé, parce que celui-là, il vient du ciel, et il est donné par Dieu lui-même. Et par surcroît, génial pain, il rassasie définitivement et il donne la vie au monde. Jusque-là, tout va bien. On lui demande d'ailleurs, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » des petits pains d'hier, c'était déjà très bien, mais alors là, on sent qu'il y a plus. Un pain qui descend du ciel, qui donne la vie. Ouais, je dis pas. Alors Jésus fait un pas de plus, il annonce que, vous voyez, la pédagogie du maître, mais bon, c'est fou. Jésus annonce qu'il est lui-même le pain descendu du ciel, et qu'il a la vertu de donner la vie éternelle. Et même, la gaffe, j'allais dire, s'il ne savait pas parfaitement ce qu'il fait, qu'il a la capacité de ressusciter celui qui le reçoit, lui, ce pain. Là, les choses commencent à se corser. Les Juifs, nous dit le texte, se mirent à murmurer à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Il disait « Mais n'est-il pas... on est en Galilée, en plus, on est dans le nord, on n'est pas loin de Nazareth. Donc il y a parmi là les gens de son clan. » Et il dit, ils se disent, mais n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Donc qu'est-ce qu'il nous raconte? Je suis le pain descendu du ciel, ils sont tranquilles. Voilà. Je l'ai vu jouer à des millions d'ailleurs, hein, tout pour eux, surtout. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'il nous dit là, n'importe quoi? Mais imaginez un peu l'effet violent quand même. Et c'est pas fini, vous savez bien. Jésus fait encore un deuxième pas de plus. Voilà ce qu'il dit, le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Alors là, la réaction se fait plus vive encore. Ils murmuraient tout à l'heure, et voilà que, nous dit saint Jean, ils se mirent à discuter fort entre eux. Discuter fort entre eux. Au Moyen-Orient, ça doit... Ouais, ça doit être quelque chose. Voilà. Déjà, cinq fous, voilà. Et ils disent, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Coup de grâce, Jésus ajoute, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme Alors le Fils de l'homme, c'est ainsi, vous le savez, qu'il se désigne depuis le début de sa vie publique. Vous verrez le Fils de l'homme, il dit à Nathanaël, dès l'appel des disciples, il dit, vous verrez le Fils de l'homme monter et descendre, etc. Donc si vous ne mangez pas de la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, non, vous n'aurez pas la vie en vous. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Non seulement il leur dit qu'il est descendu du ciel, qu'il faut qu'on le mange, il n'est pas en forme de pain, mais sang et chair, c'est ce qu'il leur dit. Il leur dit en plus que ce n'est pas facultatif. Il va falloir en manger si on veut la vie éternelle, parce que celui qui n'en mange pas n'a pas la vie en lui. Alors là, bon, on connaît la chute de l'histoire, la réaction est très violente. Après l'avoir entendu, beaucoup de disciples dire, elle est dure cette parole, qui peut l'écouter ? Et dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Fin de l'histoire. Enfin, momentané. Une veste, quoi, en gros. Enfin, faut appeler un chat un chat. Voilà, cette prédication, en tout cas, a l'avantage de ne présenter aucune ambiguïté. C'est extrêmement net et la réaction de la foule atteste qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Jésus, du reste, à aucun moment, lorsqu'il sent son auditoire lui échapper et même en fait regimber complètement, se braquer, jamais Jésus n'estompe le réalisme de ce qu'il annonce. Il ne leur dit pas il y a un malentendu, excusez-moi, j'étais un peu brusque, il ne dit pas vous avez mal compris, ça signifie en fait que, pas du tout. À la fin, il laisse même ses disciples partir, et jusqu'au plus proche, jusqu'aux apôtres, il dit, et vous aussi, vous voulez partir? Et là, c'est génial, Simon-Pierre, qui a quand même des qualités, hein, aussi, parfois il est un peu... à qui rien, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc sa foi est déjà quand même bien ancrée. Bon, là, on redore le blason de Pierre, qui est parfois un peu malmené, au gré de la prédication, ou de ce qu'on en croit. Oui, Pierre, c'est un peu lourdeau, et tout. Enfin, ça dépend des moments quand même, parce que là, c'est sans faute. Hein. Alors qu'il vient d'apprendre qu'il devait manger la chair et le sang de son maître. Je ne sais pas si un philosophe avait dit ça, ou un prof, même admiré par ses élèves, disait un truc dans le genre, je pense que... Voilà. Vous voyez, donc, aucune ambiguïté. Alors certains, tout en reconnaissant que le Seigneur a très bien pu changer le pain et le vin, le jeudi saint, en son corps et en son sang, pas de problème, oui, il est tout puissant, il peut faire ça, vont néanmoins nier que d'autres que lui, c'est-à-dire les apôtres, les évêques, les prêtres, puissent accomplir ce même prodige. Alors, c'est pour ça qu'il faut reprendre les récits d'institution et relire ce que Jésus dit exactement. Faites cela en mémoire de moi. C'est relaté seulement dans les récits de Saint-Luc et de la première aux Corinthiens. Faites cela en mémoire de moi. Faites mémoire, qui a donné mémorial, un terme sous lequel on désigne parfois la messe. Le catéchisme de l'Église catholique déploie tous les titres qu'on a donnés au fil de l'histoire à l'Eucharistie. Et mémorial en fait partie, il ne faut pas se contenter seulement de ce terme, parce que justement il est ambigu. Hein. Ça a parfois été reçu, ce terme « faites mémoire » comme l'injonction simplement d'entretenir mentalement ou d'être par des commémorations ce que Jésus avait naguère accompli. Hein, comme une pièce de théâtre, selon ce que je disais tout à l'heure, voilà, mais sans efficacité sacramentelle. Alors, ça c'est cette conception du mémorial et cette manière de recevoir la parole « faites ceci en mémoire de moi », pardon, prononcée par Jésus, ne tient pas compte de plusieurs données. D'abord, dans la liturgie juive de l'Ancienne Alliance, déjà, le fait de faire mémoire impliquait plus qu'un simple acte mémoriel. Vous savez, à chaque fois qu'Israël célèbre tel ou tel événement, Pessah, Soukhot, donc le don de la loi sur le mont Sinaï, la Pâque et le passage de la mer Rouge, etc., et le sacrifice préalable de la brebis sans tache, voilà, ou de l'agneau sans tache, en réalité, les Juifs ne font pas seulement une mise en scène pour se souvenir. Non, ça va, c'est beaucoup plus profond ce qui se passe dans la liturgie juive, et ils en sont convaincus. En fait, ils demandent à Dieu d'accomplir quelque chose d'analogue, hic et nunc, ici et maintenant, à ce qui est célébré et qui est advenu dans le passé. On dit à Elohim, à l'Éternel, bah voilà, t'as été capable de ça, c'est comme si on lui remettait sous les yeux tout ce qu'il a fait, bon bah, tu n'as pas changé puisque t'es l'Éternel. Eh bien, refais la même chose, s'il te plaît. Enfin, on le lui dit avec davantage de délicatesse, bien sûr. Mais, vous voyez, c'est très prégnant dans les convictions judaïques. C'est pas seulement une mémoire, un exercice de ta pensée, non. Et en outre, Jésus dit aux apôtres, faites ceci en mémoire de moi. Ceci, le ceci qu'il évoque, c'est le même terme qu'il a employé lorsqu'il a dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Vous voyez, c'est un terme efficace qui accomplit véritablement ce qu'il dit. De la sorte, quand il demande à ses apôtres de faire mémoire de ceci, c'est-à-dire de tout ce qu'il vient d'accomplir, en réalité, il leur donne le pouvoir de réitérer ce que lui a accompli. Vous voyez, quand on serre le texte de près, on ne peut pas errer, en fait. Les choses sont suffisamment... je vous dis ça, mais je vais quand même aller regarder copieusement dans les interprétations, mais bon, c'est quand même un très beau guide quoi, qui nous conduit au cœur de la vérité. Voilà. Le catéchisme de l'Église catholique le dit dans son numéro 1341, « Le commandement de Jésus de répéter ses gestes et ses paroles jusqu'à ce qu'ils viennent ne demande pas seulement de se souvenir de Jésus et de ce qu'il fait. Il demande plus. Plutôt, en même temps qu'il exige de ses apôtres qu'ils réitèrent ce qu'il a fait, il leur donne le pouvoir de le faire. Parce que Dieu ne demande pas quelque chose qui est au-delà des forces de la personne à qui il confie une mission. Et c'est d'ailleurs bien parce que les apôtres ont reçu le pouvoir véritable de célébrer ce que le Christ a célébré, c'est-à-dire la messe, de confectionner l'Eucharistie, de faire descendre le corps et le sang de Jésus dans les oblats que sont le pain et le vin, c'est bien pour ce motif que, donc par conséquent, que le corps et le sang de Jésus se trouvent bien à la parole des apôtres et de leurs successeurs dans les espèces eucharistiques, que saint Paul formule une mise en garde très grave, toujours dans la première aux Corinthiens, que parfois on esquive, mais qui pourtant est bien révélée, elle est de lui, et elle est une mise en garde pour chacun d'entre nous. Il dit, la coupe, c'est donc la première aux Corinthiens, chapitre 10 et 11, il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas communion au corps du Christ? Donc là, il atteste que les ministres réitèrent ce que Jésus a fait, dit « nous ». Et il ajoute, ainsi donc, « quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur ». Il n'y a pas à tortiller, quoi. Enfin, en tout cas, selon l'enseignement de l'apôtre, c'est net. Hein. C'est bien le Seigneur qui est là, le corps et le sang du Seigneur, à la parole des apôtres. « Que chacun donc, poursuit saint Paul, s'éprouve soi-même, et qu'ainsi ils mangent de ce pain et boivent à cette coupe, car celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il n'y discerne le corps. » Fin de citation. Ouf. Bon, on a vu des paroles de saint Paul plus, on va dire, galvanisantes, rassurantes, consolantes. Voilà, donc c'est, vous voyez, si saint Paul est aussi ferme, quant à l'usage que l'on doit faire, ou plutôt aux dispositions qui sont attendues de nous pour nous approcher de l'Eucharistie, c'est bien qu'il est convaincu, l'Esprit Saint aidant, la foi aidant, que Jésus s'y trouve, son corps et son sang. Voilà. Alors, ce sont les fondements bibliques. Voilà. Je vous fais l'économie de tout l'appareil des actes des apôtres, d'autres épîtres de saint Paul et de saint Pierre notamment, et de même de l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse, peut-être ne le savez-vous pas, c'est en fait une grande description eucharistique. Et les commentateurs ont été nombreux à noter que l'Apocalypse est disposé à la façon dont se déroule la liturgie eucharistique. Enfin, c'est vraiment très beau d'y retourner avec cette clé-là. Si vous avez la curiosité de le faire, ben, n'hésitez pas. Et ça permet de comprendre certaines choses qui, comme ça, de prime abord, paraissent complètement... quand on sait que c'est une messe, on se dit, tiens, c'est plus net. Voilà. Alors, je laisse donc l'Écriture sainte de côté, et j'en viens à des développements théologiques ultérieurs au sujet de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Alors, les pères ont tâtonné, mais ça vous le savez bien, il a fallu petit à petit que se cristallise petit à petit un langage de plus en plus précis pour désigner, il faut s'en souvenir tout le temps, les mystères. Donc, le Concile de Trente lui-même, qui utilise une série de formules très latines, on va dire, et qui entend rendre compte des mystères de façon explicite, met en garde à plusieurs reprises, quand il traite des sacrements, sur la pudeur qu'il convient d'adopter et sur la vacuité de certains débats théologiques qu'il faut résolument écarter. Voilà. Parce que comment Jésus descend-il dans un peu de pain, un peu de vin, allez donc savoir la bonne dame. Hein. Enfin, au fond du fond, on ne sait pas. Hein. Comment tous les écolâtres, j'y reviens régulièrement parce que ça me fait rire, surtout ça me fait penser au temps que j'étais au séminaire, pas si loin de ça quand même, j'espère, au cours duquel le séminaire, on se posait des questions. Vous avez déjà dit que c'était essentiellement pour ralentir la marche du cours, ou mettre mal à l'aise le prof, mais ben voilà, comme des potaches. Mais c'était aussi voilà, pour satisfaire une curiosité qui était quand même un peu vaine. Hein. Alors la résurrection, est-ce que vous pourriez détailler un peu comment ça s'est passé? Et les profs, invariablement, nous disaient, écoutez, Concile de Trente, pudeur, discrétion, la botte du curé, quoi. Voilà. Mais bon, donc il faut quand même qu'on dise quelques mots. Donc c'est le Concile de Trente qui est vraiment le concile qui va formaliser les choses de la façon la plus disserte, la plus détaillée. Évidemment, vous en devinez le motif, il doit faire face à une contestation très grave, très profonde, et qui prend de l'ampleur, qui prend comme une traînée de poudre, dans les rangs de ce qui est en Genèse la Réforme. Et donc il faut revoir l'intégralité de l'enseignement sacramentaire, et singulièrement l'enseignement qui concerne l'Eucharistie, qui est la clé de voûte de l'organisme. Alors, le Concile de Trente dit ceci, parce que le Christ, notre Rédempteur, a dit que ce qu'il offrait sous l'espèce du pain était vraiment son corps, on a toujours eu dans l'Église cette conviction que déclare le Saint Concile de nouveau, donc Concile de Trente, de point, par la consécration du pain et du vin s'opère le changement de toute la substance du pain en corps du Christ, et de toute la substance du vin en la substance de son sang. Ce changement, l'Église catholique l'a justement et exactement appelé transsubstantiation. Et ensuite de détailler avec le mot de précision. Là. Deux choses qui sont intéressantes dans cette déclaration du Concile de Trente, qui est ensuite cédée par un canon, celui qui ne croit pas à un rat, qu'il soit anathème. Ça, c'est l'antique manière de présenter la vérité, avec toujours à la fin une proposition contraire niée. Alors, c'est le terme de changement et le terme de transsubstantiation. En fait, pendant des siècles, le terme transsubstantiation n'ayant été forgé qu'au Moyen-Âge, sous la bulle des scolastiques, eh bien, les théologiens ne disposaient pas d'un appareil aussi précis. Et ils ont utilisé des termes tels que changement, tels que conversion, le verbe « devenir », qui apparaissent en tout point dans les écrits théologiques antérieurs au Moyen-Âge. pays au petit temps. Je vous cite juste Tertullien et saint Ambroise. Tertullien, il prit du pain et le présenta aux apôtres et le changea en son corps. Point. Bon, Tertullien est un peu plus quand même loquace par la suite, mais il le changea en son corps. Le terme laisse place à pas mal d'interprétations. Changer peut l'expliquer de bien des manières. Saint Ambroise, dans son ouvrage des sacrements, dit ceci: tu dis peut-être c'est mon pain ordinaire, mais ce pain est du pain avant les paroles sacramentelles. Dès que survient la consécration, le pain devient la chair du Christ. Vous voyez, devenir, changer, changement, voilà. Conversion, ça c'est saint Augustin qui utilise pas mal le terme de conversion pour qualifier ce qui s'opère au moment de la consécration. Vous voyez, donc il fallait qu'un terme, enfin il était, la Providence a bien fait les choses, il était utile qu'un terme plus explicite, plus net, vienne préciser les choses. Transsubstantiation. Ben, Trent explique, je viens de le dire, de manière lapidaire, ce qui se passe, c'est qu'on a la substance du pain et la substance du vin qui disparaissent au profit de la substance du corps et du sang de Jésus. Alors, évidemment, cette terminologie suppose qu'on ait quelques rudiments de philosophie classique. Sur quoi je vais m'envoyer le mot en vous, en demandant aux vrais philosophes de bien vouloir pardonner mon incurie. Alors, la substance, c'est souvent on rend équivalent au terme de substance celui de nature. Non mais rassurez-moi, ne vous braquez pas, j'en sens qu'ils sont inquiets, qui se disent, mais ça y est, on va se faire de la philo à 21h30, un mardi certes, mais quand même. Alors, j'espère que vous êtes bien reposé le week-end dernier. Voilà, on va voir. Donc la substance, c'est la nature, mais la nature en tant qu'elle est individuée. Ça va ? Nous avons tous en commun, vous et moi, quoi ? Êtes-vous un robot ? C'est la question qu'on vous pose régulièrement. Je ne crois pas qu'il y ait de robot parmi nous. Donc, pas encore. Nous avons en commun la nature humaine. D'accord ? Mais cette nature humaine, j'en veux pour preuve le panel, le fait qu'aucun d'entre vous ne soit semblable devant moi, ni physiquement, ni pour ceux que je connais, par tempérament, par tout ce qu'on veut, âge, sexe, condition, cette nature humaine, elle est vécue, j'utilise des termes impropres, mais bon, il faut se faire comprendre, elle est vécue toujours de manière individuelle, personnelle, pour ce qui concerne l'être humain. Ce qui n'est pas le cas pour un animal ou une plante, mais on ne parle pas de personne, de plante, ni animal. Quoi qu'encore, aujourd'hui, on en discute, même dans l'hémicycle, où tout est possible. Enfin, voilà. Donc, cette nature telle qui est vécue par chacun d'entre nous, qui est, elle a, on appelle la substance, elle est notre fond, si vous voulez, le fond de notre être. Substare, c'est se tenir dessous. Ça va ? Et elle est vécue, elle est incarnée, mais bon, avec des déterminations que sont notre tempérament, mais d'abord notre couleur de peau, la couleur de nos yeux, nos cheveux, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Cette substance, donc, on dit qu'elle a des accidents. Le terme est un peu malheureux, mais enfin, c'est comme ça qu'on s'exprime en philosophie classique. Les accidents, ce sont toutes les déterminations de couleur, de taille, de psychologie, de tout ce que vous voulez, de sexe, de... Voilà. Au gré de notre existence, les accidents peuvent évoluer. Alors après, on distingue des accidents plus ou moins fondamentaux. Vous voyez, notre sexe, on ne va pas en changer normalement. Vous voyez, enfin, notre tempérament. Là. Mais voilà, notre enfin, vous voyez ce que je veux dire. Les accidents vont évoluer au gré de notre existence. On va perdre des cheveux, au contraire, on va en gagner de nouveau. Non mais j'arrête de regarder les gens. Et arrêtez de me regarder. Voilà. C'est bien. Très bien. Donc, habituellement, dans l'ordre naturel des choses, la substance demeure, c'est bien toujours la même personne. Et ce qui est d'ailleurs très beau, c'est qu'on peut, s'étant quitté depuis des années, se retrouver, ayant vieilli, ayant changé accidentellement, enfin la détermination, on reconnaît bien la personne. Du reste, cette personne-là a toujours la même identité, elle se souvient d'eux, elle est le fruit de tout ce qu'elle a reçu. Voilà. Donc les accidents changent, mais la substance demeure dans l'ordre naturel des choses. Il y a un seul cas dans lequel on déroge à cette règle, c'est précisément à l'occasion de la messe, au moment de la consécration, lorsque les accidents du pain et du vin qui ont été apportés, donc des hosties et du vin, les accidents vont demeurer. Quand vous goûtez le précieux sang, quand c'est le sang de Jésus, il a bien la teneur alcoolique, il a bien le goût plus ou moins bon, enfin tout ce que vous voulez. Les hosties, c'est pareil. Tous ou presque que vous communiez, vous voyez bien que c'est... Voilà. Les déterminations accidentelles, le goût, la couleur, la taille, c'est bien les mêmes. En revanche, sous ces aspects-là, sous ces accidents-là, la substance a été totalement changée. C'est un miracle. Enfin, en tout cas, c'est une dérogation à la loi naturelle qui est absolue et unique. Ça va ? L'enjeu de cela, alors évidemment, les théologiens se sont risqués, d'où le terme, parlons juste de transsubstantiation. La substance se transforme, mais les accidents demeurent. Et même, ces accidents vont vieillir, par exemple. Donc si on laisse trop longtemps au tabernacle des hosties, bah, petit à petit, les hosties vont faire exactement ce qu'un morceau de pain du même, la même fabrique qui n'aurait pas été consacré va faire, c'est-à-dire moisir, se péricliter, enfin, se décomposer, etc. Ça montre bien qu'on a les accidents demain. Voilà. Je vais arrêter sur le précieux sang, le vin, parce que faire les déterminations du vin, vous allez dire que je suis une fixette. Quand même. Voilà, donc, pourquoi je vous dis ça ? Oui. Alors, on a glosé à l'envi sur le motif pour lequel s'opérait un tel miracle, enfin une telle dérogation. Ça me paraît, il y a un motif qui est assez évident. Il y a un motif par la négative et par la positive, enfin je sais pas, mais si c'est une miséricorde de Dieu pour nous éviter d'avoir à recevoir à chaque messe un bon vieux morceau, pas bon vieux. Qui serait pas vieux en l'occurrence, toujours frais, un morceau de chair sanguinolent. Ce qu'est la substance de chacun de ces deux dons. Et puis, par ailleurs, autre motif qu'ont trouvé les théologiens, c'est évidemment, et il me semble plus noble, c'est évidemment afin de mettre à l'épreuve notre foi, afin que nous nous confions à la parole du Seigneur, qui nous dit que son corps et son sang sont substantiellement présents derrière les apparences ou avec les accidents du pain et du vin. Et c'est ce que le Laudation que j'ai récité au début de cette séance dit. C'est une épreuve, alors je ne sais plus les mots exacts qu'emploie saint Thomas parce qu'ils sont pléthoriques, mais il y a bien de ça. Il y a sous les voiles de... Oui. Oui, la question qui est posée est la suivante. Pourquoi si la substance de l'hostie, c'est ça, hein, et du précieux sang sont bien le corps et le sang de Jésus, pourquoi est-ce que si on laisse au tabernacle trop longtemps les hosties, elles se dégradent, les accidents se dégradent Alors, j'ai pas de réponse, madame. sinon que les déterminations accidentelles demeurant, et ces accidents impliquant un vieillissement, que les matières, que les, oui, s'abîment, on en vient là, quoi. Alors, les, oui, vous y allusion aux miracles eucharistiques. Les miracles eucharistiques, sachant que l'Eucharistie est un miracle, c'est-à-dire le fait que, exceptionnellement, Dieu manifeste dans certaines circonstances le fait qu'il est bien présent, son corps et son sang sont bien présents dans les espèces eucharistiques, en permettant que même les accidents soient les accidents du corps et du sang du Christ. Là, moi, je n'y vois que une miséricorde, un secours que Dieu apporte, ou peut-être aussi un peu une mise en garde, enfin, à l'égard de ministres, par exemple, qui, célébrant, auraient perdu la foi, enfin, on ne serait plus conscient de ce qui se passe, ou une miséricorde, parce que c'est comme le Saint-Suaire et l'impression, bien que le Saint-Suaire ne soit pas la Sainte Eucharistie, est bien moins digne, mais c'est, voilà, je pense que c'est de l'ordre du témoignage ponctuel, sporadique, mais qui n'est pas l'économie habituelle, qui n'est pas, comment dire, parmi les motifs que j'évoquais de maintien des accidents, du pain et du vin, je disais que Dieu met à l'épreuve notre foi. Donc, par conséquent, il est assez compréhensible que habituellement le corps, son corps et son sang soient comme couverts sous les voiles, comme on dit, du pain et du vin. Vous voyez ? C'est ainsi. Il est arrivé de voir ça dans les tabernacles du fin fond de la campagne, pas souvent, heureusement, parce qu'on en prend soin, mais il se peut que dans une paroisse on a 30 clochers, ou dans des propriétés, voilà, on ne s'est pas très bien compris, l'aumônier scout est venu célébrer la messe, il a mis le ciboire là, il n'a pas prévenu le propriétaire qu'il laissait les saintes espèces, et en fait il s'avère que voilà, quand on replonge le nez dedans quelques semaines, mois plus tard, moi plutôt, on a bien affaire à des espèces cordées. Quoi. Et du coup, en fait, la présence, c'était un point que je voulais envisager juste après, la présence réelle du Christ dans les espèces eucharistiques ne dure que tant que, ça c'est ce que disent les théologiens, que tant que, enfin ce qu'on sait l'Église, que tant que les accidents sont décents. Il n'y a plus la présence réelle une fois que ça répond peut-être à votre question. En fait. Il n'y a plus la présence réelle lorsque les accidents se sont dégradés par trop. Et alors par décence, on les fait. Par décence, on les dissout dans de l'eau et ensuite on les met en terre. Mais voilà.
Et nous, quand on reçoit la communion.
Oui. Justement, ça fait combien de temps ? Quand on reçoit la communion, ça dure combien de temps à peu près la présence réelle ? Alors, je vous renvoie à ce que disait le Concile de Trente sur les questions, je ne vais pas dire oiseuses, parce que ce serait vexant, mais si vous voulez des précisions, les moralistes nous disent après 20 minutes. Bon, en fait. Non, mais bon, en gros, c'est le temps de la digestion d'une petite hostie. Quoi. Ça, c'est... Là encore, en fait, à cause de ces déterminations accidentelles, naturelles, eh bien, on peut en déduire des choses très... qui sont audibles au plan naturel, voilà. Ça va ?
le fait qu'on exige pour la fabrication des hosties un pain non fermenté, c'est peut-être aussi pour que l'accident reste assez stable. Parce que non fermenté, l'accident est quand même assez stable, il faut bien le reconnaître. Plus que s'il était fermenté.
Oui, oui.
Enfin, je ne sais pas quelle question je pose.
Mais... Oui.
Pourquoi est-ce que l'hostie doit être faite avec...
D'abord et avant tout, parce
non fermenté.
Pourquoi est-ce que l'hostie doit être faite, pourquoi elle doit être azyme? Parce qu'elle est l'accomplissement du rite pascal juif qui prévoyait qu'on utilise des hosties azymes sans levain. Pourquoi ? Parce que les juifs devaient partir nuitamment et qu'ils n'avaient pas le temps de faire lever le vin. Le pain, pardon. Ça, c'est un des arguments. Ils partaient, il faut une nuit entière pour faire lever. Or, ils devaient partir en pleine nuit, donc ça ne servait à rien qu'ils mettent du levain. À cela s'ajoute, et vous avez raison, ça va dans notre sens, le fait également que, et ça figure dans le livre de l'Exode, que si on n'a pas mis de levain, c'était effectivement pour ne pas corrompre la matière. Et comme l'Eucharistie s'appuie, s'ancre dans la tradition pascale, on peut expliquer par les deux mêmes motifs cette absence de levain.
J'ai une autre question, vous
avez
peut-être en parler.
Non, je vous en prie.
Quand on donne on reçoit la communion, l'enfant, on dit qu'on reçoit le corps, le sang, l'âme et la divinité.
Oui.
Donc là, c'est en fait le sens du sacrifice que l'on fait par le corps et le sang. Et quand on communise, c'est justement parce qu'après nous trempons le style dans le sang pour montrer qu'il y a la résurrection.
Oui, mais ça, quand je reparlerai du sacrifice la prochaine fois, j'insisterai sur ce détail, sur les détails de la liturgie qui manifeste, qui explicite la dimension sacrificielle. Effectivement, à un moment donné, on sépare pour mieux unir ensuite le corps et le sang. Enfin, j'expliquerai ça. Mais en réalité, oui, lorsqu'on reçoit on ne reçoit pas que le corps et le sang du Christ. Mais effectivement, puisque le Christ est tout un, on reçoit en communion le corps, le sang et, le terme est impropre, ce qui va avec. Le corps et le sang de Jésus ne sont pas inertes, ils sont ressuscités, donc ils sont unis et vivifiés par l'âme de Jésus, là on parle de l'âme humaine, et par le Verbe éternel qui est uni et qui n'a jamais cessé d'être uni. Aux deux espèces, au corps et au sang, même lorsqu'ils étaient séparés à la mort du Christ. Mais j'y reviendrai quand on traitera du sacrifice, parce que là, ça fait un peu beaucoup, je pense. Ça va ? Je termine. Évidemment, cette transsubstantiation est possible par l'intermédiaire du prêtre, que parce qu'en réalité, et je l'ai expliqué à plusieurs reprises, parce que c'est le cas dans tous les autres sacrements, ça n'est possible que parce qu'en réalité, celui qui opère, l'agent principal, si je puis dire, des sacrements, c'est Jésus lui-même. Il faut être Dieu pour pouvoir produire une telle merveille que la transsubstantiation changeait la substance en laissant intacts les accidents. Le prêtre, je pense que pas besoin de faire un dessin, est incapable de ce genre de prouesse. Voilà. Et il ne peut le faire que parce qu'il agit, comme on dit, in persona Christi capitis, donc dans la personne du Christ, c'est Jésus qui agit en lui. Voilà. Nonobstant ses défauts, sa défaillance de foi peut-être, le fait qu'éventuellement il serait quand même ta grâce, ça c'est une sécurité que le Christ, par miséricorde, a prévue en instituant même l'Eucharistie. Un traître parmi les douze. Voilà. Et c'est donc Saint Ambroise. Ah oui, il y a un moment, j'ajoute qu'il n'y a que la. Parfois, le moment de la transsubstantiation est un peu discuté entre les écoles de théologie. L'Orient, nous chrétiennes, nous reproche à nous latins d'être trop juridique, trop, comment dire, de sectoriser trop les choses au cours de la célébration de la liturgie eucharistique, j'entends, mais il n'empêche que avec les pères communs à l'Orient et à l'Occident, du reste, les choses sont assez nettes. Saint Ambroise, pour sa part, toujours dans le désacrement, donc, nous dit que c'est au moment de la consécration que s'opère la transsubstantiation. Donc au moment où le prêtre prononce les paroles de l'institution, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Je le lis. Comment ce qui est du pain peut-il être le corps du Christ? Par quel mot se fait la consécration? De qui sont ces paroles? Du Seigneur Jésus. Bon, ça, je viens de le dire. Le prêtre n'agit qu'une personne à Christi. En réalité, c'est Jésus qui va produire cette merveille. Tout le reste qu'on dit avant est dit par le prêtre. On offre à Dieu des louanges, on prie pour le peuple, etc. C'est tout ce qui précède les paroles consécratoires. Dès qu'on en vient à produire le vénérable sacrement, le prêtre ne se sert plus de ses paroles à lui, mais des paroles même du Christ. C'est la parole du Christ qui produit le sacrement. Donc, au moment précis de la consécration, descendent le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus, substantiellement présents, qui se substituent à la substance du pain et du vin. Et c'est le motif pour lequel on entoure d'égards particuliers précisément le moment de la consécration, avec l'agenouillement, souvent avec l'encens, avec les clochettes, enfin tout ce que vous voulez, on solennise particulièrement ce moment, et d'ailleurs le célébrant lui-même, selon le mystère romain, est invité à faire une révérence ou une génuflexion, on fait l'élévation, pour bien montrer après que les paroles consécratoires ont été prononcées, que ça n'est plus les mêmes, on n'a plus à faire la même chose, c'est bien Jésus. Et alors on nous parle de l'épiclèse, qui est, vous savez, cette prière prononcée par le prêtre, avec les mains, les deux mains jointes, à plat sur les oblats, en réalité en forme de colombe. Enfin, c'est l'ambition qu'a le prêtre, en tout cas. Bon, et dans des liturgies orientales, je pense notamment à une liturgie dont on parle un petit peu en ce moment, les sirops malabar et sirops malancar, je ne déterrai aucune âge de guerre, eh bien, le célébrant, au moment de l'épiclèse, remue comme ça ses mains pour montrer que c'est l'Esprit Saint qui planait sur les eaux, c'est le même Esprit Saint qui va opérer le miracle. Quoi. Voilà. Mais ce n'est pas au moment de l'épiclèse, moi la confession catholique, c'est que ça n'est pas au moment de l'épiclèse, n'est que préparatoire, nécessaire, mais seulement préparatoire. Alors, on sollicite l'intervention de l'Esprit Saint, parce que quand je dis que c'est Jésus l'acteur principal, évidemment, Jésus n'agit jamais lui-même. C'est tout ce qui est fait est en fait de création et en fait de rédemption, donc toute l'économie sacramentaire requiert une intervention conjointe des trois personnes divines. C'est pourquoi d'ailleurs dans la liturgie de la messe, eh bien, on supplie le Père par le Fils dans l'Esprit Saint. C'est comme ça que se conclut la plupart des oraisons. Voilà. Alors il faut juste que j'ajoute quand même juste un détail. Oui, donc là je vous ai dit que la présence réelle était totale, c'est-à-dire corps sans âme et divinité. Je vous ai expliqué pourquoi, parce que ça n'est pas sécable. Voilà. Elle est également totale dans chacune des deux espèces. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire parfois, dans l'hostie, on a le corps et le sang de Jésus. Et dans le calice, on a et le sang et le corps de Jésus. Les deux sont concomitants à chaque fois. Et c'est à ce titre qu'on peut ne communier qu'à une seule des deux espèces. On reçoit pour autant le corps et le sang et la totalité, c'est-à-dire non seulement le corps et le sang, mais également l'âme et la divinité. Alors, je ne détaille pas les circonstances historiques qui ont présidé dans l'Église latine à opter pour la communion générale à l'hostie, plutôt, quoi. Très bien. Et puis, persiste durablement, j'en ai parlé grâce à vos questions tout à l'heure. Voilà, chers amis, merci de votre patience. Donc, la prochaine fois, nous verrons un point qui est crucial, ce qu'elle veut dire. Le sacrifice. précisément le caractère sacrificiel de la messe. Comment est-il possible que le sacrifice du Christ ayant été totalement accompli il y a 2000 ans, à la célébration de chaque messe, on est pour autant un sacrifice? Qu'est-ce qu'implique le sacrifice? Est-ce que le Père serait cruel au point d'avoir projeté son fils contre la croix, de l'avoir lâché en race campagne, et non content de l'avoir fait une fois, voilà, qui va réitérer ça à chaque messe? Voilà, qu'est-ce que ça implique? Et qu'est-ce que ça implique de notre part en termes de disposition intérieure? Voilà. Merci de votre attention. On va, si vous voulez bien, se tourner vers la Vierge Marie pour finir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur.